France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse.
Les multiples conversions de J.D. Vance, le vice-président américain, ou comment cet homme d'à peine 40 ans a pris de la place dans l'administration, mais par quel chemin pour devenir quelle sorte d'héritier? C'est cette construction qui est racontée dans un documentaire. David Thompson l'a réalisé, on en parle avec lui dans moins d'une minute. L'Europe, malade de sa démographie, on vient d'en parler dans le journal. Qu'est-ce que ça dit de notre avenir? C'est ce que nous expliquera Louise Baudet qui remet le monde à l'endroit. Le reportage ce soir est en Colombie, secoué par l'intervention américaine au Venezuela. Ça va mieux maintenant, mais il se peut que la séquence ait laissé de vraies traces. Il y a des élections au printemps en Colombie.
J'ai pas encore décidé de mon vote, mais ça me fait réfléchir sur l'un des candidats qui peut présenter une option beaucoup plus diplomatique et qui permette de faire redescendre les intentions violentes d'intervention dans le pays.
Un reportage de Najat Benrabah à découvrir autour de 18h41. Sous les radars, Guillaume Audat a trouvé le Venezuela. Ça nous laisse sur le thème et dans la région. Figurez-vous que pour s'emparer du pétrole, Washington va brûler 13% du budget carbone mondial. Et puis Caroline au pays des 27, avec Caroline Gillet qui va se faire expliquer les sanctions européennes contre le nucléaire russe. Et savez-vous qui bloque le plus fort? Eh bien vous le saurez juste avant 19h. Le monde est vaste et on n'a pas une heure. Allons-y.
Yeah, he said some bad things about me, but that was before he knew me and then he fell in love.
Le terme que mes sources utilisent, c'est le converti loyal. Trump adore les convertis loyaux parce qu'une fois que vous avez franchi ce Rubicon, vous devenez un atout précieux parce que vous n'allez pas faire marche arrière.
Bonsoir David Thompson.
Bonsoir Fabienne.
Vous êtes journaliste indépendant, c'est un extrait de votre film qu'on vient d'entendre, ça s'appelle J.D. Vance, La revanche d'une Amérique. C'est diffusé ce dimanche sur France 5 dans Le Monde en face. Vous le signez, vous l'avez coécrit avec l'ami Thomas Negaroff, ce qui nous permet vraiment de comprendre qui est J.D. Vance et surtout où il va. Et on a choisi cet extrait parce qu'il dit beaucoup de choses, des conversions nombreuses justement qui ont été les siennes. L'émergence de J.D. Vance, on la connaît maintenant l'histoire, celle d'une Amérique très pauvre, d'une Amérique cassée par les opioïdes, sa mère toxique. Psychomane et lui à la force de l'intelligence hein, quand même, qui monte et qui l'a écrit d'ailleurs dans un livre. Et puis il y a des moments de rupture et de conversion. Peut-être que la première, on ne va pas toutes les faire, mais peut-être que la première, David Thompson, c'est 2003. C'est un jeune marine, J.D. Vance. Il revient d'Irak et là déjà, il aime plus ce qu'il a vu.
Son engagement en Irak, il était soldat en Irak, hein. Il était soldat pas en poste de combat mais il s'occupait de la communication, c'est central dans sa vision aujourd'hui de la politique étrangère des États-Unis. En gros, il incarne cette nouvelle génération de conservateurs américains, une sorte de mise à jour du logiciel Trump, qui sont en rupture totale avec la droite de l'époque Bush, les néoconservateurs, et que sont construits en opposition avec cette droite. Il revient d'Irak totalement... plus que déçu, désillusionné sur la capacité des États-Unis à aller bombarder un pays pour instaurer la démocratie.
Puis l'idée même de bombarder un pays pour la démocratie, en fait.
Absolument.
Rien que l'idée, effectivement, est compliquée pour lui.
Il revient en disant ça ne marche pas, c'est pas possible, et on ne doit pas faire ça. Donc aujourd'hui, ça se voit dans sa lecture, dans sa vision de la politique étrangère. Il n'est pas vraiment isolationniste. Il est certainement pas interventionniste, mais ils appellent ça le réalisme. En gros, pour faire simple, c'est quand il y a quelque chose qui va à faire dans l'intérêt des États-Unis, tant qu'il n'y a pas de soldats américains qui seront tués, on y va. Alors, quand il s'agit d'éliminer Abu Bakr al-Baghdadi, on y va. Quand il s'agit d'éliminer Soleimani, on y va. Quand il s'agit d'aller capturer Maduro au Venezuela, si c'est dans l'intérêt des États-Unis, dans leur perception de l'intérêt économique des États-Unis, on y va, et ça rentre dans la doctrine America First,
encore,
mais pas de boots on the ground.
Et on y viendra d'ailleurs, mais effectivement sur le Venezuela on l'entend pas, c'est plutôt intéressant. Sur le Groenland on l'avait carrément entendu puisqu'il y a été. Sur l'Iran on sent bien qu'il est en train de freiner les cas de fer par rapport aux intentions de Trump. Avant d'aller là, David Thompson, j'aimerais comprendre ce parcours-là, parce que la rupture d'après, c'est les Tea Party qui émergent en 2008, et là c'est un peu l'inverse. Là il la reconnaît pas, cette droite-là, il dit la droite américaine c'est un bastion de colère et de contradiction. Au fond, on a l'impression que jusqu'à Trump, ce garçon a cherché quel républicain il était, quel républicain il fallait incarné, et à quoi devrait ressembler le Parti républicain.
C'est exactement ça. Et pour moi, en fait, y a beaucoup de questions d'interrogations sur la sincérité de sa conversion trumpiste, et de sa conversion aussi, on en parlera, au catholicisme, parce qu'elle est tardive. Et avant de se convertir, après 2016, en tout cas au trumpisme, c'était quelqu'un qui avait eu des mots très durs contre Trump.
Il l'a traité de raciste.
Il l'a comparé à Hitler. Il l'a comparé.
Et d'incompétent, d'ailleurs.
Il a dit que c'était une héroïne culturel pour les États-Unis. Quand on sait le passé, il a grandi dans la toxicomanie de sa mère, de son entourage, donc la souffrance que ça représente pour lui. Donc cette comparaison, c'était pas du tout anodin. Donc il y a cette conversion, et à chaque fois, en fait, tout ramène à son origine sociale et à son histoire unique. Parce que si aujourd'hui, J.D. Vance veut littéralement pulvériser les institutions internationales héritées de la Seconde Guerre mondiale, qui ont pourtant été construites par les États-Unis, c'est parce qu'ils pensent que la mondialisation est responsable de tous les malheurs de cette petite classe ouvrière blanche dont il est issu et qui est complètement ravagée par la désindustrialisation. Il explique cela par la mondialisation. Donc, à chaque fois, tout aujourd'hui nous ramène à son histoire et à Middletown en Ohio, ce petit bled du fin fond de l'Ohio, dévasté par la crise des opioïdes, dévasté par la pauvreté et puis par la désindustrialisation.
Le libéralisme, en effet, la ruine des petites gens, mais aussi, c'est ça qui est intéressant, le libéralisme social, c'est-à-dire les idées égalitaires, c'est-à-dire le wokisme, pour faire très court, mais ça vient doucement, ça vient à sa conversion au catholicisme, ça vient probablement dans la fréquentation de Peter Thiel, mais finalement, il le trouve, en fait. Le Graal, c'est le conservatisme social. Il met le doigt dessus, finalement, et là, il y est.
Son entourage, et c'est ça qui est très frappant sur le plan économique, c'est la fin du néolibéralisme. Ses proches m'ont dit c'est un marxisme inversé, ce qui peut paraître étonnant. En fait, ils veulent réindustrialiser le Midwest. Ils veulent reprendre toutes les industries stratégiques qui ont été délocalisées à la Chine parce que ils veulent les relocaliser aux États-Unis parce que ils sont dans une logique in fine. Leur logiciel, il peut se comprendre qu'à travers leur conviction qu'on va forcément vers un affrontement stratégique avec le vrai rival des États-Unis, qui est la Chine. Et donc, cette fameuse Monroe doctrine,
Monroe matinée carré, de Donald Trump,
voilà,
ouais.
Elle se comprend à travers ce prisme-là. C'est que on reprend le contrôle de notre sphère dans la perspective d'un choc à venir avec la sphère chinoise.
Mais en même temps, moi, je m'interroge toujours sur l'opportunisme ou pas de la transition trumpiste, en fait, parce que sur le fond, je comprends bien ce que vous dites, et c'est vraiment sa doctrine, et en même temps, Trump est tellement, pardon, foutraque en matière de doctrine, qu'on se dit qu'il sert à quoi, en fait ? Est-ce que vraiment il adhère, ou est-ce qu'il ment et il sait qu'il pourra s'en servir comme un escalier, ou peut-être que quelqu'un lui a mis dans l'oreille « Prends ton mal en patience, parce que le suivant, c'est toi. »
Pour comprendre J.D. Vance, je pense qu'il faut imaginer un Donald Trump qui aurait lu des livres, et qui aurait lu tous les classiques de la philosophie politique, qui aurait été diplômé de philosophie, diplômé de droit à l'université de Yale, meilleure université des États-Unis. Et en fait, J.D. Vance est un intellectuel, un lecteur vorace. Quand on lit ses textes, on le comprend. Moins quand on l'écoute, c'est vrai. Mais c'est quelqu'un qui, en fait, a pris cette espèce de gros magma qu'est le trumpisme pour en faire une doctrine, pour le coup, très structurée. Et c'est pour ça que Trump l'a choisi comme vice-président, et c'est pour ça que le fils de Trump, dont il est très proche, Don Jr. et Charlie Kirk à l'époque, ont poussé pour que ce soit lui qui soit choisi comme vice-président, parce qu'ils ont dit à Trump, J.D. Vance, avec J.D. Vance, MAGA, a un avenir. MAGA n'est pas un accident, il ne va pas s'arrêter avec toi, avec vous, président Trump. Trump sera le fondateur de cette doctrine MAGA, et on n'est pas sur un truc accidentel.
Mais ça veut dire qu'il n'en pense pas moins quand même, J.D. Vance,
voilà,
à votre
alors,
avis, de
voilà
Trump
la question. Il n'y a pas de réponse claire là-dessus, chacun a son opinion. Évidemment, c'est un converti tardif, un converti loyal. Trump adore les convertis loyaux, parce que quand on a mangé son chapeau après avoir dit toutes les horreurs sur Trump, on ne revient pas en arrière. Le converti loyal, c'est un converti qui ne risque pas de bouger. Mais moi, ma conviction, alors là, je donne mon avis, c'est que Vance incarne, la trajectoire de Vance incarne celle du Parti républicain. Ça commence avec le Tea Party, que vous avez bien connu.
Ouais. Le Tea Party, c'est juste après Barack Obama. C'est
voilà,
dans la foulée
cette espèce
de Barack Obama.
De révolte populiste qui était l'embryon du mouvement MAGA, en fait. Pour devenir, après 2016, en 2016, la majorité du Parti républicain était absolument anti-Trump, surtout l'establishment républicain. Et petit à petit, Trump a totalement colonisé le parti républicain, au point qu'aujourd'hui, il est plus puissant que jamais encore au sein de ce parti. Et Vance, je pense, incarne cette évolution, et il pense aujourd'hui que la meilleure réponse à apporter pour sauver en fait son petit peuple blanc du Midwest, c'est le logiciel trumpiste.
Mais pour l'instant, sa puissance, au fond, c'est quoi ? Parce que, en effet, quand on le voit, il fait du bruit. Enfin, le discours de Munich, on s'en souvient, où il avait engueulé les Européens en leur disant « Vous avez peur de la démocratie ». On se souvient aussi du bureau ovale. Mais quand il est face à Zelensky, on sent bien que ce qu'il a envie de lui dire, c'est « Vous pouvez rentrer chez vous, vous n'aurez rien ». Et on n'en est pas là aujourd'hui. On voit bien que ce qui se passe au Venezuela, je pense que c'est exactement ce qui l'horripile. Mais ça se passe quand même. Ce qui peut se passer en Iran, ça l'horripile aussi. Mais ça se passe quand même. Donc est-ce que pour l'instant, il n'a aucune prise sur Donald Trump ? Ou est-ce qu'au fond, alors évidemment vous n'êtes pas dans sa tête et moi non plus, mais au fond il s'en fout, il sait où il est placé. De toute façon, il verra quand il y sera.
Je pense que le logiciel, il est clair dans sa tête, mais qu'effectivement, lorsque Donald Trump a décidé quelque chose, c'est difficile d'aller à l'encontre de sa décision. Mais je pense que J.D. Vance, effectivement, n'était pas le plus ardent partisan de l'intervention au Venezuela. D'ailleurs, on ne l'a pas vu lors de la fameuse
pas
conférence de presse
absent total,
à Mar-a-Lago. Il était visiblement absent des préparatifs.
Ouais.
Donc lui, il incarne, ça c'est une ligne qui est plutôt incarnée par Marco Rubio, ouais, qui est plus ou moins son rival.
Qui était aussi le rival au moment de choisir le vice-président.
Absolument,
l'un ou l'autre,
à la fin ça s'est joué entre deux. Marco Rubio rassurait les grands donateurs, rassurait ceux qui voulaient une politique étrangère un peu traditionnelle, mais J.D. Vance, lui, était soutenu par les grands barons de la tech. Elon Musk, oui. Peter Thiel, qui est celui qui est son pygmalion, et ils ont dit à Trump, si tu choisis Musk, pour reprendre l'expression d'un des membres intervenant du commentaire, on te donne les clés du royaume, l'argent coulera à flot pour la campagne, et c'est exactement ce qui s'est passé.
Donc en vous écoutant, je me dis qu'il est en train de ranger son frein à certains égards et qu'il arrivera derrière l'une des très grandes conversions. Si vous le racontez très bien dans le film, c'est Charlie Kirk, c'est la mort de Charlie Kirk qui lui permet là vraiment d'être devant avec ses conviction, avec son chagrin même, c'est lui qui s'assoit à sa place pour l'émission. Qu'est-ce que ça dit ? Où est-ce que ça l'emmène, Charlie Kirk ?
Charlie Kirk était vraiment un proche de J.D. Vance. Donc, J.D. Vance est en première ligne après son assassinat. Il s'est rendu sur place avec sa famille. Il a pris l'avion Air Force Two pour aller chercher sa dépouille. Elle l'a ramené en Arizona. Et il y a eu deux choses très importantes. Il a utilisé ce moment politiquement pour dire à la base, à la droite du mouvement MAGA, qui a toujours douté de lui en raison du fait que, justement, c'est un converti et de ses propos très critiques envers Trump il y a quelques années. Il a profité de ce moment pour leur dire à cette base, la droite et notamment la jeunesse, je suis des vôtres, je suis l'un des vôtres, je suis votre leader.
Est-ce qu'il a réussi à faire ça ? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, et ce sera ma dernière question, David Thompson, c'est que le mouvement MAGA devient gazeux par moments, gazeux du côté de Marjorie Taylor Greene qui a claqué la porte, gazeux du côté de Nick Fuentes qui est assis à la droite de Gengis Khan et qui lui vraiment est encore presque encore pire que Vance. Donc où est-ce qu'il est là-dedans ? Est-ce qu'il peut la faire cette synthèse ou pas ? Ou alors sinon, dans votre film, la thèse c'est s'il ne fait pas la synthèse, il tombe. C'est fini.
Aujourd'hui, la campagne présidentielle à droite a commencé. En secret. Hein. Il ne faut pas que Trump le sache, en fait. J.D. Vance est l'héritier quasi adoubé, mais il n'est pas seul. Donc la bataille est loin d'être gagnée pour lui. Il y a Steve Bannon qui va se présenter à la primaire, en tout cas qui prépare son équipe est prête. Steve Bannon, il incarne l'aile nationaliste populiste qui est majoritaire au sein du mouvement MAGA. Et J.D. Vance, il a un problème de légitimité avec cette base centrale qui est clé au sein du mouvement MAGA. Ensuite, il y a Marco Rubio. Marco Rubio qui incarne plus un parti à l'ancienne, parti républicain à l'ancienne, presque néoconservateur. Il aimerait pas qu'on dise ça parce que ça le disqualifie auprès de la base. Mais en tout cas, le premier d'entre eux à ce stade, ça reste J.D. Vance, mais la bataille est loin d'être gagnée pour lui.
J.D. Vance, j'allais vous appeler J.D. Vance. Non, David Thompson, merci beaucoup. La suite, c'est votre film diffusé donc dimanche soir sur France 5. Vraiment, c'est passionnant. Ça s'appelle La Revanche d'une Amérique. C'est diffusé dans Le Monde en face, co-signé avec Thomas Negaroff. Merci beaucoup de votre passage chez nous. La suite, c'est vous, Louise Baudet, qui remettez le monde à l'endroit.
L'Europe, plus grand EHPAD de la planète. Préparez-vous, Fabienne, c'est pour bientôt.
Allez, à tout de suite, juste après ça.
Miss their chances to learn the hardest lessons again and again. Carrying my mother's torment. I think I'm where the bloodline ends. I'll never do the right thing again. Go ahead and kill me. Can't get much stronger. Find another.
Hayley Williams, Kill Me, c'est la chanteuse du groupe de punk Paramore, figurez-vous, qui a fait la BO de Twilight, quand même. Louise Baudet, ça n'intéresse pas du tout. C'est dans la playlist de France Inter, Kill Me. Si elle monte à l'endroit, c'est tout de suite.
Fabienne Saint-Es. Le 18-20.
Le monde à l'endroit, Louise, ce soir, c'est un monde qui vieillit. Plus de décès que de naissances l'an dernier, la France rejoint le reste de l'Europe.
Eh oui, le vieux continent est vraiment vieux. Et il est loin le temps où Thomas Malthus s'inquiétait d'une population progressant trop vite. La démocalypse, l'hiver démographique, en lieu et place du malthusianisme au premier rang des grandes peurs européennes. Et c'en est fini de l'exception française. 1,56 enfants par femme en moyenne l'an dernier. C'est le niveau le plus faible depuis 1918, mais c'est l'un des plus élevés de l'Union européenne. Cela fait plus de 30 ans qu'en Allemagne et en Italie, il y a moins de naissances que de décès, plus de 10 ans en Pologne ou en Espagne. Partout, la promotion de l'individu libre s'il le souhaite de s'épanouir sans enfant, mais aussi le coût de la vie, notamment du logement, et l'inquiétude au sujet de l'avenir de la planète. Tout cela pèse sur le désir de procréer.
Et ça pèse aussi, bien sûr, sur les systèmes sociaux et les comptes publics.
Et oui, avec 30 millions d'actifs en moins d'ici 2060 et trois fois plus d'octogénaires à la fin du siècle, comment financer les retraites ou la prise en charge de la dépendance? Comment remplir les caisses de l'État avec moins de cotisations sociales? Comment pallier les pénuries de main-d'œuvre dans la santé, l'agriculture ou le bâtiment? Comment continuer à innover quand, en Italie par exemple, plus de la moitié des PME sont dirigées par un patron sexagénaire et plus du quart par un septuagénaire?
Et ce déclin de la natalité, il est devenu partout un sujet politique.
Oui, Emmanuel Macron n'est pas le premier à appeler au réarmement démographique du pays. La Pologne a mis en place des politiques familiales très généreuses et a construit des places en crèche. La Hongrie de Viktor Orban a opté pour des incitations financières massives, exonération fiscale à vie pour les mères de familles nombreuses ou prêts immobiliers avantageux conditionnés au nombre d'enfants. Mais ces politiques natalistes ne parviennent pas à inverser la tendance, aussi spectaculaire et idéologique soit-elle, et travailler plus vieux ou miser sur les robots pour remplacer les humains ne suffira sans doute pas.
Donc l'Europe qui devient un vaste EHPAD, une fatalité ?
Eh ben, attention quand même, alors il y a d'autres maisons de retraite autrement plus imposantes que le vieux continent. La Chine vieillit et se dépeuple, détrônée l'an dernier par l'Inde comme première puissance démographique mondiale. Le Japon ou la Corée du Sud sont également frappés de dénatalité. Et surtout, le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, n'est pas le seul paramètre qui détermine le volume d'une population. Le solde migratoire compte, autrement dit, l'écart entre les arrivées et les départs du territoire national.
L'immigration donc vue comme solution au naufrage démographique européen.
Ben en tout cas, sans immigrés, la population de l'UE pourrait diminuer de 34% d'ici la fin du siècle, plus de moitié en Italie et en Espagne, 13% en France. Projection établie par Eurostat, l'Institut statistique de l'Union européenne. Des pays ouvertement anti-immigration comme le Danemark, l'Italie ou la Hongrie le savent très bien d'ailleurs. Eux qui recrutent de la main-d'œuvre étrangère, mais sans le dire trop fort, car cette vérité statistique est difficile à assumer politiquement dans une Europe où le rejet de l'étranger est un carburant électoral puissant et la peur du grand remplacement plus forte que celle du grand effacement.
Louise Baudet, merci beaucoup et à demain, le reportage. Le reportage d'un jour dans le monde, c'est un jour en Colombie ce soir. Le pays vient de vivre une sacrée séquence après l'enlèvement de Nicolas Maduro au Venezuela. Donald Trump avait promis de faire la même chose au président colombien, Gustavo Petro, qui avait répondu qu'il était prêt à reprendre les armes. Un coup de fil après, la pression est redescendue. Les deux hommes devraient d'ailleurs se rencontrer prochainement à Washington. Mais cet épisode laisse des traces et pourrait même rebattre les cartes d'une campagne électorale qui commence en Colombie, législative en mars, présidentielle en mai. Le reste, c'est Najed Benrabah qui raconte.
Sur la place Bolivar, plus de 30 000 personnes, selon les estimations, se sont réunies pour soutenir leur président et la souveraineté de leur pays. Les slogans scandés par les manifestants étaient très directs comme
« C'est la Colombie, pas une colonie !»
Puis, le président colombien Gustavo Petro a annoncé sur la scène avoir parlé avec le président nord-américain Donald Trump. Le premier coup de fil et contact direct depuis le début du mandat de Trump.
Trump a dit « C'était un grand honneur de parler avec le président de la Colombie, Gustavo Petro ».
Ce coup de fil a permis de désamorcer une crise née et alimentée sur les réseaux sociaux entre les deux présidents avec des menaces, des insultes et des critiques. Ce qui a permis à l'opposition colombienne, en pleine campagne électorale, d'attaquer violemment la gouvernance de Gustavo Petro. Après cette manifestation, les esprits se sont calmés. Le soulagement a pris le dessus. Les Colombiens et Colombiennes, qui craignaient une intervention militaire américaine, s'inquiètent désormais pour les élections à venir. Edgar Elou vit en Colombie depuis 15 ans. Ce Libano-Franco-Colombien a retrouvé le sourire après l'annonce de Gustavo Petro.
Ben, je me sens plus rassuré, il y a un peu d'inquiétude quand même. Je pense qu'on est dans une année électorale, et dans une année électorale, on sait que les influences vont commencer à bouger dans le pays. C'est ça qui génère un peu d'incertitude, donc c'est ça qui nous rend un peu, je pense à tous les Colombiens, un peu nerveux, de savoir si les élections vont être vraiment libres, si le discours va être monopolisé parce que ça a fait Trump au Venezuela, donc je pense que c'est l'élément qui nous donne un peu d'incertitude.
Pour vous, justement, est-ce que ça joue dans votre choix ?
Je ne sais pas encore. On va voir les jours qui viennent, comment ça se déroule.
De son côté, Anna Maria Parra est toujours inquiète. Elle préfère rester sur ses gardes. Pour elle, il est certain que les conséquences s'observeront dans les urnes.
Ça fait clairement réfléchir. J'ai pas encore décidé de mon vote, mais ça me fait réfléchir sur l'un des candidats qui peut présenter une option beaucoup plus diplomatique et qui permet dans son programme politique de faire redescendre toute l'intrigue, les intentions violentes d'intervention dans le pays. Alors je pense que mon vote ira dans ce sens.
Pour le politologue français et professeur de sciences politiques à l'université del Rosario de Bogota, Yann Basset, cet événement a rebattu les cartes de la campagne électorale. Tout est possible.
Parce que effectivement, ça provoque pas mal de peur. Et si ça provoque de la peur, on se dit bon, l'électorat va, dans un réflexe un peu conservateur, va se diriger vers un candidat plutôt acceptable pour les États-Unis, donc un candidat de droite. Mais ça provoque aussi de l'indignation, non ? Et ça peut avantager la gauche.
L'insécurité, la lutte contre le narcotrafic et la guérilla ELN, la sécurité à la frontière avec le Venezuela, les relations avec Washington, ces sujets sont désormais sur toutes les lèvres des candidats pour les législatives de mars et pour la présidentielle de mai. La rencontre annoncée à Bogota entre Gustavo Petro et la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, devrait intensifier le ton de la campagne. Beaucoup de Colombiens et Colombiennes craignent que cela enflamme davantage les débats politiques entre les candidats et pousse les électeurs à faire de mauvais choix.
Najed Benrabah, depuis Bogota, merci beaucoup. La suite ce soir, c'est sous les radars que ça se passe avec vous, Guillaume Audin.
Sous les radars et sur les mers d'Afrique du Sud où Moscou et Pékin font croiser leurs navires avec la marine iranienne.
Et Caroline au pays des 27 avec Caroline Gillet qui chaque mardi pousse les portes de l'Europe.
Oui, certains pays tentent d'empêcher les restrictions de l'Union européenne à l'encontre du nucléaire russe. Et parmi eux, la France. Mais pourquoi ?
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète commence à peine. Il passe par l'Argentine avec Juana Molina. C'est une actrice qui a fait de la telenovela, figurez-vous. Elle chante aussi, vous écouterez si vous aimez, le 15 avril à Paris. Voilà, Ferocissimo, c'est le choix musical de Djoubaka ce soir.
Thank you.
Juana Molina, Ferocissimo sur France Inter et dans Flairocimo, je crois, ça suffit, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Allez, regardez sous les radars, il doit y avoir Guillaume Audin.
Organizers say the drills are about building trust and cooperation, improving coordination and protecting maritime routes.
Bâtir la confiance, Guillaume, et la coopération en mer, c'est tout l'objet d'un exercice naval qui a lieu entre la Chine, la Russie et l'Iran.
Oui, beaucoup se demandent en ce moment qui et où sont les alliés du régime de Téhéran, lequel réprime et tue en ce moment à huis clos sa propre population. Qui ? Eh bien, Pékin et Moscou, et où, au large de l'Afrique du Sud, plusieurs navires, trois marines de guerre engagés dans le cadre d'un exercice militaire en haute mer organisé par le BRICS plus l'alliance hétérogène de plusieurs puissances du Sud global. L'objectif sur le papier, sécuriser au mieux les voies de navigation internationales, le Cap de Bonne-Espérance au large de l'Afrique du Sud, le canal de Suez ou le golfe Persique, autant de voies maritimes hautement stratégiques pour le commerce mondial et les hydrocarbures, ce pétrole que vend le Kremlin à ses partenaires via sa flotte fantôme, le pétrole que livre abondamment l'Iran à la Chine qui en échange lui fournit du conseil, du renseignement et des armements. Silence, on tue à Téhéran avec la bénédiction toutefois de Moscou et de Pékin.
30 millions de barils d'oil ont été donnés par Venezuela. That's a lot of oil. It's about $4 billion.
Voilà, qui n'a pas reconnu sa voix, mais surtout son appétit. Donald Trump veut donc s'emparer du pétrole vénézuélien. Le coût écologique de cette opération s'annonce monstrueux.
Appetite for Destruction. C'est le titre d'un album de Guns N' Roses qui résume, je trouve, l'hubris sans limite du président américain. On va forer du pétrole au Venezuela comme jamais personne n'en a foré, a dit à vide Donald Trump qu'on a entendu. Ça rappelle son Drill Baby Drill pour l'extraction du gaz de schiste aux États-Unis, au mépris absolu de l'accord de Paris qu'il a de toute façon déchiré. Alors pourquoi s'arrêter en si bonne route, me direz-vous ? Une étude commandée par le Guardian révèle que pour faire de la machine pétrole vénézuélienne un outil rentable à court ou moyen terme, il faudrait à la fois investir 100 milliards de dollars, les compagnies américaines y vont à reculons, mais en plus consommer 13% de ce qu'il reste du maigre budget de carbone mondial dans l'espoir presque 20 de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire 2 degrés si on est optimiste d'ici à 2100. À quoi s'accrocher lorsque le sol se dérobe sous nos pieds, à l'enfance, à l'innocence ? C'est le sens de cette chanson, mm-hmm. Sweet Child O' Mine, quand tout s'écroule, l'amour devient refuge.
3, 2, 1, 0.
Alors c'est bien parti, mais c'est parti en fumée après. New Delhi a raté le lancement de l'une de ses fusées vedettes et c'est le deuxième échec consécutif, Guillaume.
Voilà, de là à parler, Fabienne, de série noire, il n'y a qu'un pas. C'est en effet le deuxième échec en moins d'un an, la dernière tentative ratée. C'était en mai 2025, cette fois-ci dans l'affaire. L'aérospatiale indienne perd un satellite d'observation militaire, deux échecs en moins d'un an pour cette fusée Star. Ça représente environ 120 millions de dollars, c'est conséquent, mais sur le plan stratégique et technique, c'est l'accumulation d'un certain nombre de retards. Et dans ce contexte de tension accrue avec le Pakistan voisin, autant dire que ça n'était pas vraiment le moment. Rien pour autant ne freinera, dit-on, à New Delhi, les ambitions de ce pays en termes de course aux étoiles. L'Inde vise la Lune en 2040, prête à rivaliser avec les grandes puissances spatiales. La leçon indienne de cette mésaventure, elle résonne avec ce mot de Nelson Mandela qui m'accompagne depuis longtemps déjà. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends.
Allez, Guillaume Motta, vous êtes bien rêveur, bien philosophe, vous ce soir. Merci beaucoup. Le mardi, Caroline Gillet pousse les portes de l'Europe. C'est celle-ci.
France Inter, le 18-20.
Et Caroline, vous avez retrouvé Anna Hubert, qu'on a déjà rencontrée ici même, la jeune journaliste de Contexte qui accepte régulièrement de vous envoyer des notes vocales depuis la bulle.
Oui, la geek de l'énergie. Dans le dernier épisode avec elle, on parlait des fameux paquets de sanctions mis en place par l'UE envers le gaz et le pétrole russe, suite donc à l'agression de l'Ukraine. Là, Anna est sur un autre sujet, le nucléaire. Faut-il sanctionner aussi la filière nucléaire russe ? On ne parle pas ici de nucléaire militaire, mais ça reste beaucoup plus complexe que le gaz, plus tabou. Cette chronique commence avec un petit point météo de début d'année. Tiens, il fait quel temps délicieux à Bruxelles ces jours-ci et c'est quoi l'ambiance ?
Tiens, attends, je vais essayer de te faire un petit son dans la neige. Et c'est vrai que la semaine est vraiment très bizarre à Bruxelles parce qu'il y a des grosses actus. Il y a l'actu Mercosur, l'actu Venezuela / Groenland. Donc des énormes actus et en même temps, personne n'est rentré. Enfin, en fait, les gens rentrent au compte-gouttes, mais les sources un peu techniques sont pas vraiment là. Les politiques réagissent, mais sur Twitter. Je te parle pas de la météo dehors qui est apocalyptique. J'ai failli m'envoler en venant au bureau ce matin.
Anna profite du calme glacial pour rédiger des articles sur les vieux dossiers qui n'avancent pas, un peu comme certains journalistes écrivent les nécros des grands artistes pour être prêts quand ils meurent. Et donc là, sur la future proposition d'interdiction du nucléaire russe par la Commission, c'est quoi l'enjeu et pourquoi ça tarde ?
Depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Union européenne s'est engagée à sortir de toutes les énergies russes. Et donc, elle a commencé par le gaz, le pétrole a aussi été sanctionné. Et le nucléaire, en fait, c'est un peu le tabou, ça traîne. Ce qui se passe, ce que plusieurs sources disent, c'est qu'en à l'été, il y avait une proposition sur la table. Ce que je comprends, c'est que ce texte a été retoqué au plus haut niveau, peut-être par le cabinet von der Leyen, parce que trop sensible. Et notamment parce que la France, premier pays nucléaire européen, y est relativement opposé à ce que le nucléaire subisse le même traitement que le gaz. Chose encore une fois qu'on n'entend pas publiquement, mais qui est dit à huis clos très clairement. Et ça, c'est un truc que je suis en train de creuser.
Mais alors pourquoi est-ce que la France, et d'ailleurs aussi la Slovaquie et la Hongrie, mais eux c'est pour des raisons de proximité avec le Kremlin, donc c'est trop facile, mais donc pourquoi la France serait-elle opposée à sanctionner les Russes ? D'abord, comme pour le gaz, chaque État des 27 a une dépendance différente à la Russie pour le nucléaire.
Il y a plusieurs stades où on peut être dépendant des Russes. D'abord, les mines d'uranium, il y en a pas mal qui se situent en Russie. Et puis surtout, une fois qu'on a parlé d'uranium naturel, on a qu'un tout petit bout de la lorgnette, puisqu'ensuite l'uranium doit être converti, puis doit être enrichi, puis il doit être transformé en barre de combustible. Et à chacune de ces étapes, jusqu'à la barre de combustible qui est insérée dans le réacteur, il y a une dépendance à la Russie pour tous ces services-là, à des degrés différents.
En France, 67% de la production d'électricité est liée au nucléaire. C'est beaucoup, c'est des gros enjeux.
La France a peur que ça renchérisse le coût, parce que les matières russes et les services russes de conversion, d'enrichissement sont bien moins chers.
Raconter tout ça, ça semble facile, mais Anna galère.
Le gros boom, c'est moi qui viens de rentrer dans une cabine pour te faire un petit vocal. Cabine insonorisée, de laquelle je viens de sortir pour un rendez-vous téléphonique avec une source sur le nucléaire. Et c'est vraiment fou, personne ne veut parler. Pour sans faire de mauvais jeu de mots, le mix est vraiment radioactif dans cet article. Et ce qui est très marrant, c'est que quand on a... Enfin, ce qui est très marrant à mon échelle de geek de l'énergie, c'est que quand on parle à Orano, donc français...
Orano qui a remplacé Areva.
Eux vont dire... On peut remplacer la capacité russe de conversion et d'enrichissement, surtout d'enrichissement d'uranium, assez vite, en fait, dans les toutes prochaines années, à condition d'avoir une clarté réglementaire, c'est-à-dire des sanctions ou des quotas pour diminuer les importations d'uranium russe.
Alors vous non plus, vous n'avez pas bien compris la fin ? Ça allait un peu trop vite ? En gros, il y a des acteurs français qui pourraient prendre le relais des Russes. Mais pour ça, il faut qu'ils fassent des gros investissements. Et pour que ça vaille le coup, ils ont besoin de savoir pendant combien de temps on va interdire en Europe le nucléaire russe. L'idée, là, ce serait d'interdire le gaz, peut-être bientôt le pétrole ou l'uranium de Russie, sans limite de temps. Mais donc, pourquoi la France est-elle opposée aux sanctions sur le nucléaire russe ? Petit passage par la cantine avant de répondre à cette question.
J'ai trouvé où sont tous les gens de la bulle européenne qui ne répondent pas aux mails, ne sont soi-disant pas dispo pour des cafés. Ils sont à la cantine du Parlement européen. Et donc, pour moi, ce midi en dessert, c'est la tartelette Chiboost. Jamais entendu parler de ce truc. C'est une spécialité d'un État membre, ou c'est juste moi qui suis complètement inculte. Et c'est un truc normand.
Anna n'a clairement pas le temps de chercher, je lui dois bien ça, alors voilà, je lis que la crème Chiboost a été inventée par le pâtissier parisien Auguste Julien Chiboost. En 1840. Il s'agit d'une crème pâtissière généreusement aromatisée à la vanille, allégée à chaud, avec des blancs d'œufs montés, meringués. Mais donc pourquoi la France est-elle opposée aux sanctions sur le nucléaire russe ?
Ce qui inquiète surtout la France, c'est la filière recyclage, parce que pour l'instant, EDF exporte son uranium déjà utilisé, qui sort des réacteurs, en Russie, pour être reconverti et enrichi. Et ça, il n'y a pas vraiment d'alternative. Si on le fait en Europe, c'est pas industriellement, économiquement très intéressant. Et c'est très polluant. Donc c'est assez plaisant pour les Européens d'exporter en Russie.
Voilà, et Anna complète, si la Commission semble moins dans l'urgence d'agir, c'est parce que pour le Kremlin, les revenus liés à l'uranium s'élèvent à 700 millions contre 22 milliards dépensés par les Européens pour le gaz russe en 2024. Son article est sur la revue En ligne de contexte.
Merci beaucoup Caroline, à mardi prochain.